podcast sur le sujet de la disparition des cookies tiers. Aujourd'hui, nous allons explorer le volet technique et pour cela, nous avons avec nous Raphaël Stuck. Bonjour Raphaël. Tout d'abord, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi ?
Bien, bonjour à tous. Raphaël Stuck, actuellement consultant freelance. Je travaille pour différentes régies et différents éditeurs. J'ai un passé d'Adops, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience et j'ai toujours travaillé du côté éditeur, ad server, programmatique et data.
Merci Raphaël. Alors, la première question que l'on voudrait te poser est assez simple. Pourrais-tu nous rappeler la différence entre un first party cookie et un third party cookie ?
Donc, la distinction entre un cookie tiers et un cookie first party doit se faire au niveau du domaine. Ça veut dire qu'on va parler d'une cookie first domain ou une cookie third domain, un domaine tiers. Donc le domaine, c'est vraiment le nom de domaine. Imaginons qu'on est www.lalibre.be. Le domaine, c'est lalibre.be. Imaginons qu'on est belgique.lalibre.be. Ça, c'est juste le sous-domaine. Le domaine reste lalibre.be. Une cookie first domain est une cookie qui, en résumé, pour simplifier, serait déposée directement par le site web et qui aura pour nom de domaine lalibre.be. Une cookie third domain, c'est une cookie qui peut être déposée par un outil tiers présent sur ce site web, comme par exemple on pourrait avoir un ad server Google qui déposerait des cookies google.com. C'est valable pour n'importe quel système, pas uniquement les systèmes publicitaires, mais également les systèmes de gestion de contenu, les CRM, les outils de single sign-on et tout ce genre de choses. Pourquoi c'est important ? Parce que une cookie first domain, donc une cookie déposée au nom de lalibre.be, pourra toujours être lue ou réécrite par le nom de domaine. Une cookie tierce devra avoir l'autorisation de l'accès à ce domaine-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en théorie, le site de lalibre.be n'est pas à même de lire les cookies déposées par google.com sur son propre site. Ça, c'est en résumé les grosses différences entre cookie first et cookie third.
Merci. Donc, ce qui nous attend avec les modifications qui vont être apportées au sein de Chrome, c'est la disparition de ces third-party cookies. Peux-tu nous dire quel impact technique cela va-t-il avoir ?
Chrome bloque les cookies tierces et, à long terme, a l'intention de bloquer l'ensemble des cookies. Donc, on va sauter une étape et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui déjà d'un monde cookie-less. Mais on n'y est pas encore au vrai cookie-less. Il y aura une étape intermédiaire. Ce que fait Chrome en bloquant les third-party cookies, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà chez Firefox et chez Safari. Mais comme ces browsers-là représentent un pourcentage minoritaire, important mais minoritaire dans le surf, on ne mesure pas, en termes de publicité, on ne mesure pas encore réellement l'impact. On compte peut-être plus de visiteurs uniques que d'habitude, mais on ne se rend pas vraiment compte qu'en fait, on ne fait plus de déduplication. Par contre, Chrome est, et ça se voit à travers les outils analytiques de l'ensemble des éditeurs, Chrome est dominant en Belgique et à mon avis un petit peu partout dans le monde en termes de browser. Et évidemment, quand Chrome va agir, là, ça va se constater. Paradoxalement, on risque de voir une explosion de visiteurs uniques et peut-être que certains publishers qui ne comprendraient pas cela vont croire que leur audience en visiteurs uniques a augmenté sans pour autant augmenter le nombre de page views. Donc ça, c'est un risque de mauvaise interprétation. Mais l'idée est la suivante. Chrome, par défaut, va bloquer à travers le browser le dépôt de cookies tiers. Et le surfeur aura toujours la possibilité d'aller dans ses settings de son browser pour accepter les cookies tiers. Un petit peu comme le font Safari et Firefox. Ça veut dire que Chrome, dans un premier temps, ne ferme pas complètement la porte, mais il passe à un mode négatif par défaut. Évidemment, on imagine mal la situation où on va demander au surfeur d'aller changer ses settings dans son browser pour qu'on puisse lui afficher de la publicité, entre autres. Donc c'est vraiment ça, c'est la première étape. La deuxième étape prévue par Chrome, mais qui est encore sur la table, c'est vraiment le blocage complet de toutes les cookies. Donc ça, c'est un petit peu la stratégie, je pense, et l'impact.
Merci. Et du coup, maintenant, d'un point de vue publicitaire, quel sera l'impact de ce changement dans notre day-to-day ?
D'une première manière, imaginons que les cookies tiers soient bloqués par les surfeurs. Peu importe que le surfeur donne son consentement au site web. Donc quand j'arrive sur un site web, le site web me demande si je peux déposer des cookies et ce genre de choses. En tant que surfeur, même si je lui donne mon consentement, le browser ne laissera pas passer. Donc ça, c'est un premier impact. Ça veut dire que les éditeurs vont perdre le contrôle, ne pourront plus donner au surfeur le contrôle sur les cookies déposés. Le surfeur contrôlera ce qu'il accepte ou pas directement dans son browser. Évidemment, on peut se mettre du point de vue du surfeur et dire « c'est une bonne chose », mais on peut aussi regarder l'autre côté de la pièce et de dire que Google prend le contrôle sur le processus décisionnel. Et là, il gagne encore un peu de terrain sur les éditeurs. D'un point de vue purement publicitaire, il y a d'autres impacts, il y a des impacts sur le contenu, ce genre de choses. D'un point de vue purement publicitaire, il faut savoir que globalement, tous les systèmes publicitaires aujourd'hui, qu'on parle d'un ad server, d'une DMP, d'un SSP, d'un DSP, peu importe, repose sur l'usage de cookies. Il y a des cookies qui sont purement techniques pour retenir des informations, ce genre de choses. Mais la cookie la plus importante de chaque système est la cookie qui permet d'identifier le surfeur. Avec cette ID, ça va permettre, un bête exemple, de compter les visiteurs uniques, déjà, nombre d'ID uniques, de décider d'appliquer un frequency capping, dire qu'un surfeur ne peut voir que trois fois cette publicité-là. Ça va impacter la communication entre DSP et SSP, entre ad server, annonceur et agence. Et ça va aussi faire en sorte que les annonceurs et les éditeurs auront des problèmes de synchronisation entre leurs données. Exemple, imaginons que je suis client chez un annonceur, je lui ai donné mon consentement, j'ai dit qu'il pouvait m'envoyer de la publicité. Eh bien, ça ne sera plus possible parce que l'annonceur ne sera plus capable de réconcilier son ID, mon ID, entre les différents domaines. Je parlais de lalibre.be là tout de suite. Eh bien, entre lalibre.be et, pour pas faire de jaloux, lesoir.be. par exemple. Donc cette synchronisation, cette réconciliation d'ID ne sera plus possible, et cette synchronisation est utile tant pour le comptage, les visiteurs uniques, que pour la synchronisation des data, cibler les CRM, et d'un point de vue hors publicité, est aussi utilisé par les systèmes de single sign-on. Imaginons un éditeur qui a plusieurs titres. J'ai acheté un abonnement. L'abonnement me permet de me connecter avec le même login à site1.be et à site2.be. Eh bien, ces single sign-on ne pourront plus fonctionner. À côté de ça, pour les e-shop, c'est la même chose. Tout ce qui est panier, ça continuera à fonctionner s'ils sont en first domain, mais on peut imaginer qu'un petit commerçant qui a downloadé un framework ou quelque chose comme ça, et qu'il a son domaine mapetiteboutique.be, mais que derrière ça, il utilise tout un framework prédéfini derrière un autre domaine, eh bien, il ne sera plus à même de retenir les articles dans le panier s'il ne fait pas les adaptations concernées.
Merci, c'est très clair. Alors, face à cette problématique, on peut lire un peu partout qu'il y a plusieurs solutions envisagées. Peux-tu nous expliquer ces différentes solutions?
À partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'annonceur, l'éditeur ou le système, est capable de réconcilier différents ID. Donc j'aurai un ID au nom de site1.be, un autre ID au nom de site2.com. À partir du moment où on est capable de réconcilier ces différents ID déposés dans des cookies force domain, alors on peut évidemment reconnaître le surfeur, le dédupliquer, etc. Sauf que dans un cadre où les cookies tiers sont bloqués, cela va devoir se faire d'une autre manière. Et comme on ne pourra plus par défaut déposer des cookies tiers domain sur le browser du surfeur, on va devoir trouver d'autres solutions pour faire cette réconciliation en background côté serveur. Ça veut dire que il va falloir avoir un point de référence et un mapping. Et là, pour ce procédé-là, alors c'est une des options, pour ce procédé-là, il est extrêmement important pour les éditeurs de disposer de first-party data. Donc, en gros, ce sont des gens qui, que ce soit pour un login, pour une newsletter, pour un abonnement, pour un achat, n'importe quoi, ont donné leur identifiant, ont créé un compte et qu'on puisse se reposer sur une identité valable. Dans ce cas-là, on sera parfaitement à même de comparer ces informations-là avec celles de l'annonceur côté serveur et l'éditeur en first domain pourra générer un ID unique qu'il pourra transmettre à l'annonceur qui lui ne sera plus capable d'identifier. Donc en gros, les éditeurs devront mettre à disposition leur réseau média et leur first party data pour permettre aux annonceurs de synchroniser leur first party data. Ça, c'est une première chose. Pour faire ça, il faut aussi que les systèmes publicitaires soient adaptés pour accueillir un ID qui viendrait d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ils n'auront plus la capacité de déposer leur propre ID, donc ils devront s'adapter, ouvrir un tiroir qui permet à l'éditeur de lui transmettre un ID et que eux puissent le gérer en background. Tout ça, ce travail de synchronisation, de mapping, est quelque chose qui devra se faire côté serveur, en dehors du browser, derrière, comme un site web est hébergé sur un serveur, et c'est là où on va commencer à parler de API et de serveur to serveur, des serveurs qui vont communiquer directement avec d'autres serveurs pour établir le mapping. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des initiatives qui vont dans ce sens. Je crois qu'on a connu, qu'à moi, les dizaines d'acronymes ces dernières années. On a eu les ad-serveurs, on a eu les DSP, les SSP, j'en passe et des meilleurs. Je crois qu'on peut sans risque aujourd'hui imaginer que demain, on aura des IMP, des Identity Management Platform. Ça, c'est pure spéculation de ma part, mais ce sera nécessaire.
Merci Raphaël pour ces éléments de réponse. Peux-tu nous dire également si l'impact sera également présent dans l'univers mobile?
Au niveau mobile, il faut considérer trois choses. Il y a trois types de mobile. Le type basic, c'est simplement le site web qui a été conçu en responsive. Je prends ma tablette ou mon smartphone, j'ouvre mon browser, je tape www.monpetitsite.be et là, j'ai une version responsive. Dans ce cas-là, ce sera exactement la même problématique et les mêmes conditions que celles liées aux différents browsers. Ça veut dire que si je suis avec un téléphone ou une tablette Apple, j'utilise Safari et le problème se pose déjà. Demain, j'ai un téléphone ou une tablette Android, j'utiliserai Chrome, le problème se posera. Donc ça, c'est vraiment les sites, la consommation de sites via mobile, mais des sites conçus en responsive. Ensuite, à côté de ça, on a les apps. Là, il y a deux distinctions à faire. Il y a des apps hybrides et des apps natives. Globalement, pour simplifier, j'insiste, et c'est de la simplification, les apps hybrides sont une espèce de coquille vide qui va chercher son contenu sur les serveurs de l'éditeur. Une apps native, c'est une apps qui a été conçue en utilisant des fonctionnalités liées au SDK, donc l'environnement technique propre à Android ou à iOS. Exemple, si mon app a pour but uniquement d'afficher du contenu, je vais faire une app hybride qui fonctionnera sur Android et iOS. C'est pour ça qu'on l'appelle hybride. Si le but de mon app est comme par exemple l'app Corona Alert, qui a besoin d'accéder à mon Bluetooth et ce genre de fonctionnalités-là, là, je serai obligé, entre guillemets, d'utiliser le SDK. Dans le cadre d'une app native, là, il ne devrait pas y avoir de changement, car dans la plupart des cas, il n'y a pas de cookies qui sont utilisés. Normalement, ce n'est pas possible. Donc là, on repose sur l'existant, sur ce qu'on appelle le App ID ou le Ad ID, qui en gros est un ID utilisateur lié à la device et transmis au système de publicitaire. Donc il ne faudrait pas attendre trop de changements. Par contre, pour les apps hybrides, eh bien, celles-là, elles vont revenir sur le même principe que les sites web développés en responsive et seront, entre guillemets, victimes de la politique du browser. Est-ce que Chrome a l'intention de distinguer son browser version desktop et son browser version apps Android? Je pense pas, je ne sais pas, honnêtement, mais je vois pas pourquoi ça changerait quelque chose. Donc, en ce qui concerne les apps, tout dépendra de quelle apps on parle, de quel éditeur on parle.
Alors, nous avons parlé de la solution serveur to serveur précédemment. Si jamais cette solution devient la norme dans le futur, est-ce qu'il n'y a pas un risque de création d'écosystèmes fermés et du coup un impact sur la mesure publicitaire?
C'est un avis personnel parce qu'aujourd'hui c'est encore un peu flou vers où on va. Mais si on regarde un petit peu autour de nous, je pense effectivement qu'il y a des systèmes, il y a des écosystèmes qui vont se créer, des alliances qui vont se faire. Ça a commencé avec David Trading, qui est une alliance data en Belgique, qui n'avait pas pour vocation de servir la réconciliation d'ID, mais plutôt le regroupement et la déduplication des données via des DMP. On a pu voir dans la presse il y a quelques semaines qu'il y a des régies qui se regroupent pour former une grande régie. Je ne vais pas te citer de nom, mais ça se retrouve très facilement. Ça date d'il n'y a pas très longtemps. On peut imaginer que les éditeurs vont se regrouper et derrière ce regroupement, vont également regrouper toutes leurs technologies. Et pour la plupart, ils ont des services. Ayant des services, ils ont des systèmes de login. Donc, ils ont la capacité d'identifier très précisément le surfeur. Après, comme on parlait de serveur to serveur et que les éditeurs mettent à disposition des annonceurs leur réseau média pour l'identification, je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui va se faire par cluster. Aujourd'hui, un annonceur peut très bien mettre ses données CRM chez Facebook et les utiliser autant qu'il veut, de la manière qu'il veut, dans l'écosystème Facebook. La réponse de Google n'est pas, je pense, une considération philosophique au niveau des cookies ou de la vie privée. Je pense que si Google considérait la vie privée, il pourrait faire mieux. Je pense simplement que c'est Google qui se replie sur lui-même et qui envoie une réponse technique à Apple et à Facebook. Et en fait, ce n'est pas pour rien qu'on considère un petit peu partout qu'ils sont dominants. Ils le sont de plus en plus. Et à côté de ça, la réponse des éditeurs doit aller dans le même sens. Évidemment, avec beaucoup moins de pouvoir, mais un avantage certain, c'est que les éditeurs, eux, sont au niveau local. Et ça, c'est extrêmement important, je pense, pour les annonceurs. C'est de savoir où va atterrir ma pub. Et si je synchronise mon CRM avec un éditeur, m'assurer que je peux avoir confiance en cet éditeur et le faire proprement, correctement, dans le cadre du respect de la GDPR. Si j'envoie mon CRM dans Facebook, bien sûr, ça va marcher. Je ne suis pas sûr que les droits de mes surfeurs sont parfaitement respectés et que ma responsabilité n'est pas engagée au niveau de la GDPR. Donc, pour répondre à la question, oui, je pense qu'il va y avoir des regroupements. Je crains que il y en ait plusieurs. En avoir un seul au niveau belge n'est pas possible stratégiquement, mais ne serait, je pense, pas possible d'un point de vue légal pour des questions de monopole et de concurrence. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas juriste, mais je peux l'imaginer. Et que pour les annonceurs et les agences, en attente de plateformes IMP, hein, les Identity Management Platform, alors c'est un truc qu'on invente ensemble, ils vont devoir se rabattre là-dessus, sinon ils auront des problèmes à diffuser leur campagne.
Merci Raphaël. Alors, sur cette base-là, aujourd'hui, quel est le conseil que tu pourrais donner à nos annonceurs? Quelle serait la chose qui, selon toi, serait à faire en priorité pour se préparer à ce monde sans third party cookie?
Pour tous les annonceurs qui ont des données CRM, donc qui ont un service pour leurs surfeurs, par service, j'entends encore une fois un e-shop, une newsletter, n'importe quoi qui nécessite un enregistrement sur leur site web, mon premier conseil serait de mettre en ordre leur first party data et leur système d'exploitation de ces first party data, parce que si demain ils veulent les exploiter, il y a de fortes chances qu'ils devront se connecter à des systèmes tiers ou à des éditeurs. Déplacer la synchronisation. Évidemment, s'ils n'ont pas nettoyé ça aujourd'hui, réactiver leur surfeur, ils auront beaucoup plus de mal à le faire demain. J'ai eu l'occasion de travailler pour des annonceurs et la manière dont le CRM est géré, la manière dont leur CRM est connecté à leur système de distribution, ad-server, DSP ou autre, donc, il y en a qui font ça très bien, il y en a c'est juste dramatique. Ils vont le prendre de plein fouet. Donc la première chose à faire, c'est ranger, faire du rangement autant que possible. Et la deuxième chose à faire, c'est collaborer de très près avec les éditeurs, peut-être pas avec tous, mais avec certains ou les plus importants ou ceux avec qui ils ont la meilleure relation ou chez qui ils achètent le plus de médias, tout simplement, de collaborer pour mettre en place des stratégies techniques et procéder au premier test, car demain, on se réveillera tous et ce sera trop tard.
Une dernière question. Avec la disparition des cookies tiers, est-ce que énoncer des termes comme second party data ou third party data aura encore du sens? Est-ce que c'est quelque chose qui sera encore exploitable à l'avenir?
La first party data, on peut la définir comme la data que j'ai récoltée moi-même. Imaginons que je suis un annonceur, les données que j'ai dans mon CRM, c'est ma first party data. Même chose pour un éditeur. Donc, il faut se placer du point de vue de celui qui a récolté la data. Dans ce cas-là, on peut avoir le cas d'un annonceur qui a collecté lui-même ses data. Je me suis enregistré à son service. J'ai déclaré mon genre, j'ai déclaré mon âge, ce genre de choses-là. Il sait les produits éventuellement que j'ai achetés ou qui m'intéressent. Tout ça, ce sont ses first-party data. D'un point de vue de l'éditeur, c'est de la donnée tierce. Ce n'est pas celle de l'éditeur, c'est celle de l'annonceur. Ce qui va se passer, c'est que l'annonceur va avoir beaucoup de mal à activer, à rendre cette data-là utilisable dans ses systèmes publicitaires. Exemple, un annonceur qui sait que je suis un homme et je me suis enregistré chez lui, il veut m'envoyer de la pub à destination des hommes. ça c'est activer sa data, il aura beaucoup de difficultés. Manque de synchronisation d'ID, interdiction de déposer des cookies qui ne sont pas du domaine de l'éditeur. Ça, ça rejoint l'idée de synchronisation auprès de l'éditeur, et l'éditeur fera ce travail pour lui, et l'éditeur déposera une cookie force domain pour lui. Ça, c'est le principe serveur to serveur. Maintenant, ce qu'on peut comprendre par le second party data, ce sont les réseaux revendeurs de data. Exemple, j'ouvre mon ad server, je n'ai pas de data à moi, mais j'ai un fournisseur qui me fournit des infos sur les surfeurs belges qui sont des hommes. Et je lui dis oui, je veux cibler ça, je lui achète sa data. Tous ces mécanismes-là ne sera plus possible si le surfeur n'a pas accepté les cookies tiers dans son browser ou si les systèmes concernés ne mettent pas en place des mécanismes similaires de réconciliation d'ID et de synchronisation. Je vois déjà aujourd'hui dans le monde des DMP, des importants fournisseurs de DMP qui faisaient du travail d'enrichissement de data sur base de database tierce qui arrêtent ces services-là parce qu'ils savent que demain, ils ne seront plus capables de fournir cet enrichissement de data. Donc oui, il y a un risque. Les systèmes devront s'adapter ou il faudra trouver des solutions serveur to serveur, mais qui ne pourront pas se faire avec tout le monde, tous les éditeurs connectés à tous les annonceurs, c'est juste irréalisable, irréaliste. Donc, les systèmes vont devoir trouver autre chose ou disparaître.
Tout grand merci Raphaël pour tous les éléments de réponse apportés aujourd'hui, et on vous dit à bientôt pour l'épisode numéro 2 qui se consacrera au volet juridique de cette disparition du third party cookie.